Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. L'amoureux des poètes que vous êtes a fait rimer Capri et Berry. C'est au cœur de cette campagne qu'après avoir bâti votre carrière, vous avez rebâti un presbytère. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre que vous avez parfaitement construit. Bonjour Hervé Villard.
Bonjour Jacques. Comment va la vie, confinée?
Très bien, nous sommes confinés tous les deux, mais on se parle grâce aux techniques modernes. Et le livre, ça s'appelle « Du lierre dans les arbres », c'est chez Fayard. Oui. C'est le troisième tome de vos souvenirs. Passionnant, oui. On va en parler au cours de l'émission, longuement. Et je sais qu'il a été écrit avec beaucoup d'émotion, et on le lit avec beaucoup d'émotion.
Merci.
Alors, cette émission, donc le principe, c'est de raconter votre vie à travers des dates clés. Donc, on va quand même faire un petit résumé des épisodes précédents avec une date qui est le 22 juin 63, qui ne vous correspond pas directement, mais je crois que ce jour-là, vous assistez à un événement qui est la grande soirée de Salut les copains à Paris.
Alors ?
Ben voilà, vous vous souvenez de cette soirée ?
Ah, la soirée de Salut les copains à la Nation.
À la Nation.
Où il y avait Johnny Hallyday, où j'étais dans les arbres.
Voilà, exactement.
Ah oui, parce que la Salut les copains, vous savez, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je foutais à Salut les copains, je ne chantais pas encore. Oui, d'accord, j'étais dans les arbres, j'avais fait le mur de l'orphelinat avec un copain qui s'appelait Lepage, et nous étions allés à la Nation voir Johnny Hallyday, mais c'était la soirée de Salut les copains, et je me souviens, nous étions dans les arbres.
Et il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, et à part de Johnny, personne n'a pu chanter.
Non, nous n'avons pas chanté, personne n'a chanté. D'ailleurs, ça s'est battu beaucoup, ça a cassé beaucoup. Il y avait beaucoup de blousons noirs à l'époque. Vous savez, c'était des jeunes délinquants qui venaient beaucoup de banlieue ou de la Trinité. Je crois qu'il y avait même Eddie Mitchell dans le coup, d'ailleurs.
Oui. Voilà. En fait, la lecture de Salut les copains, c'est une des raisons qui vous a donné envie de chanter.
Non, moi, vous savez, à l'époque, j'aimais Juliette Gréco, Mouloudji, je n'appréciais guère Clo-Clo et Sheila. Il faut le reconnaître, moi, même, surtout par la suite, quand je suis devenu disquaire bien après, je veux dire, j'aimais, je vous dirais, Dalida, j'aimais la chanson d'amour, vous voyez, j'aimais déjà les textes, parce que j'avais déjà lu Stendhal, et moi, les wabdouwab, les yé, 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 j'ai oublié de l'oublier, et ça ne marchait pas avec moi.
Non, d'ailleurs, la vie n'était pas facile, je crois que vous dormiez parfois dans les rues, c'était le temps de... vous avez dormi, je crois, et vous le racontez dans votre livre, entre les tombes du cimetière Montmartre.
Oui. C'est exact. Mais j'étais pas le seul. On était des orphelins évadés de d'orphelinat de Saint-Vincent-de-Paul et on s'évadait. Et quand parfois on sortait, on rentrait le soir et parfois on restait 8 jours dehors. Paris était en pleine guerre d'Algérie. C'était pas simple de vivre. Mais il faut reconnaître, avec le recul, je le dis aujourd'hui, la vie pour les jeunes que nous étions en cavale devait être beaucoup plus facile, beaucoup plus tendre, beaucoup plus humaine qu'elle l'est aujourd'hui.
Oui, on vous appelait un délinquant mineur à l'époque.
Oui.
Terme qui n'existe plus.
Oui, c'est un mineur, un assisté mineur, un orphelin mineur, oui.
Et c'est là qu'est arrivé Daniel Cordier, disparu voici quelques jours, qui vous a vraiment pris sous son aile pour vous aider l'orphelinat.
Alors, je vais vous expliquer, là, c'est autre chose. Nous étions en cavale, une bande de copains, et la gare Montparnasse, l'ancienne gare, allait tomber. Et là, il y avait une nouvelle gare qui s'élevait, comme ça, vers le ciel. Et il y avait un peintre qui jetait sur une toile des seaux de peinture, qui jetait comme ça, qui projetait sur une toile de la peinture de toutes les couleurs. Et ce peintre s'appelait Dado. Et moi, j'étais là parmi les badauds, mais c'est pas sa peinture qui m'intéressait, c'était plutôt son sandwich posé sur le bord de la table, n'est-ce pas? Nous avions faim, et donc là, ce peintre d'ado, qui est devenu mon ami par la suite, l'a vu, s'en est rendu compte. Donc il a pris le sandwich, et là, il y a un symbole. Tout démarre de là, au fond. Il a partagé ce sandwich avec moi et il m'a dit, viens samedi, par contre, tu laves ton col de chemise et tu viens samedi, je donne un vernissage dans les beaux quartiers. Je suis allé dans les beaux quartiers, j'ai lavé ma chemise et mes pieds dans le lavabo de la gare Saint-Lazare. Et là, je suis arrivé dans une galerie de peinture dont je ne connaissais pas l'existence, je ne savais même pas que ça existait. Et là, j'ai vu quelque chose d'inimaginable que je ne croyais pas qu'il existait. Il y avait tout un tas une quantité de femmes qui sentaient bon. Vous voyez? Donc, je sais pas, ça m'a donné un peu confiance. Et là, à un moment, à 9 h du soir, j'ai regardé naturellement toute cette peinture en bouffant naturellement les petits fours pour 15 jours. Et là, à ce moment précis, il y a Cordier qui fait, mais qui est ce jeune garçon qui reste là? Il demande ça à Dado. Et Dado lui dit, mais c'est mon petit admirateur. Et comme un déclic, je ne sais pas, je vous dis, c'est peut-être cette odeur des femmes, le parfum des femmes qui sentait bon, qui m'a rassuré. Et là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas dit de mensonge. J'ai dit à ces gens qui me posaient des questions, j'ai dit, je suis évadé d'orphelinat. Daniel Cordier et sa copine Iris Claire, qui était une femme grande galeriste du Faubourg Saint-Honoré à l'époque, qui était entourée, très entourée, et qui s'occupait de Klein, du grand peintre Klein à l'époque. Elle me dit, écoutez, venez déjeuner avec nous demain matin. Demain, je suis allé déjeuner avec eux. Évidemment, je m'en suis encore mis plein la gueule. Et à la fin du déjeuner, ils ont dit tous les deux, Iris et Daniel, ont dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner en orphelinat et on va t'en sortir. Et voilà comment ça commence.
Alors, Capri, c'est aussi une chose, il y a des choses extraordinaires. Il y a par exemple une chose, Lise Taylor, par tradition, a amené tous ses maris, sauf le dernier, à Capri.
Ah, et
C'est une chose
alors?
extraordinaire. Ben voilà,
Elle en a eu
c'était une
combien? Vous
tradition.
voulez me renseigner? Vous avez tous les renseignements.
Il y en
Combien
a
elle a
eu
eu?
9, je crois.
9!
Ouais.
Mais c'est pas beaucoup!
Je
J'ai
sais,
connu
mais.
des femmes qui en avaient beaucoup. J'ai connu Maria Félix, elle en a eu
Je
davantage.
sais, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, qu'il y a eu Capri, c'est fini, mais il y a une chose qu'on sait peu sur vous, c'est que vous avez été dans les années 70, Hervé Villard, un French lover en Amérique du Sud,
Oui,
avec
bien
des
sûr.
succès phénoménaux.
Oui. Alors, je vais vous dire, j'ai retrouvé ma mère à 20 ans. Daniel pensait que je n'allais pas m'en occuper vraiment. Puis, vous savez, on n'a qu'une mère dans la vie. Et moi, j'étais très fier. Ce sont des journalistes qui me l'ont ramené un jour à Verdun. Donc, ma mère était une femme désespérée, désemparée, une toute petite femme toute simple. On me l'a ramenée à Verdun. Je me suis occupé d'elle. Seulement, ça n'a pas réussi car elle a beaucoup, beaucoup culpabilisé. Ma petite mère était une femme des faubourgs qui s'appelait Blanche, qui vendait des partitions dans les rues, des violettes. C'était une espèce de machin. C'était dans l'époque de Piaf, des faubourgs, de la Croix de Chavaux. Donc ça, c'est un autre pari, et donc j'ai cru que j'allais en faire une princesse et une reine, et lui rendre tout ce qu'elle avait raté dans sa vie, et pouvoir lui offrir, puisque je venais de gagner beaucoup, beaucoup de pognon, n'est-ce pas? Donc c'était pour moi très simple de la rendre heureuse. Seulement, elle a beaucoup culpabilisé, et ça s'est mal passé. Donc j'ai été obligé, après un drame d'un incendie dans son immeuble, j'ai été obligé de m'exiler car j'étais responsable et je me suis exilé en Amérique latine où j'avais alors déjà énormément de succès. Donc je suis resté pendant 7 ans. Je veux dire, je venais ici de temps en temps, mais on peut dire que ma carrière avait basculé là-bas et que ici j'étais beaucoup moins connu. Donc si vous voulez, je préférais me cantonner là-bas, et ma mère est venue à Alzheimer, donc je venais m'occuper ici dans son centre, et voilà. Je ne sais plus ce que je vous raconte parce que je suis un peu troublé là.
C'est qu'on parlait de ce succès en Amérique du Sud et en Amérique vous êtes devenu un French lover.
Oui, c'est ça, French lover, c'est-à-dire que vous savez, la France dans ces pays-là, l'Amérique latine, nous restons. Peut-être plus maintenant parce que beaucoup de nos chers présidents font beaucoup de conneries, j'allais dire, au niveau international, et on racontait pas mal aussi. Mais je veux dire, on était, quand vous alliez à Buenos Aires, que vous étiez français, par exemple, c'était un cadeau qu'on leur faisait, il y avait un chanteur français qui arrivait. Moi, j'ai vu arriver la Comédie française à Buenos Aires, c'était extraordinaire. Bon, aujourd'hui, hélas, ça n'est plus le cas. Donc, à Mexico, j'étais vraiment, oui, ce qu'on peut appeler un grand French lover. On chantait dans les stades, on chantait dans les immenses cabarets. J'avais des musiciens, j'avais un orchestre magnifique, on faisait des salles. Il y avait encore une fois du monde dans les arbres, mais sur les places publiques cette fois-ci.
Alors ça s'est passé en Amérique latine et vous êtes revenu en France et on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 28 mai 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Hervé Villard.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hervé Villard. Il y a ce livre de souvenirs du lierre dans les arbres chez Fayard dont on va parler tout au long de l'émission. Et il y a une date d'ailleurs qui est évoquée plus ou moins dans ce livre, c'est le 28 mai 1978, votre retour à la télévision dans Music and Music avec cette chanson. Savoir que Music and Music, c'est la seule émission qui vous est acceptée à l'époque, Hervé Villard, parce que personne ne voulait de vous, à commencer par les Carpentiers.
Oui, ben les Carpentiers n'ont jamais voulu de moi pour des raisons qui leur étaient personnelles.
Qu'on n'a jamais connues.
Mais que je ne dirai pas, que je laisse à la mémoire, leur mémoire tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne salirai pas la mémoire de ces gens-là, même si je n'étais pas dans leur petit papier, même si je n'ai jamais pu obtenir de faire une émission, ce qui me gênait beaucoup avec eux, alors que je pense l'avoir mérité. Mais c'était comme ça. Ils étaient les plus forts, ils avaient l'émission top de l'époque, et je crois être. Peut-être Salvatore Adamo n'a pas été engagé aussi. Voilà. Mais on était très, très, très peu de chanteurs à ce qui n'ont pas engagé. Bon, l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire de Rêverie, elle est simple. Je suis rentré. Vous savez, notre vie, nous avons de la chance, nous avons des privilèges, mais notre vie aussi est parsemée parfois, nous, les artistes, de malheurs. N'est-ce pas? Donc, moi, j'ai eu un grand malheur, un grand drame en Amérique latine. Je le décris dans ce livre, c'est que je voulais fonder une famille avec un professeur qui était une Mexicaine et nous voulions fonder une famille. Cette femme était enceinte et elle est malheureusement disparue enceinte. Et donc, quand j'ai vu ça, je ne me suis pas resté en Amérique latine. J'ai donc décidé de revenir en France. Et dans l'avion, je me suis dit, il faut que j'écrive une chanson. Et j'ai écrit Rêverie. Et Rêverie reste une de mes chansons préférées de mon répertoire aujourd'hui. J'ai écrit les paroles, la musique comme Cabri, c'est avec ce même élan et je crois cette même envie, cette même fougue de vouloir sortir de ses entrailles quelque chose qui vous est très propre, vous voyez, très personnel. Donc j'ai écrit cette chanson et elle, quand je l'ai enregistrée, parce qu'il faut quand même souligner que j'ai quand même été préservé par deux garçons qui étaient de grands producteurs à l'époque, qui ont fait la grande carrière de Michel Sardou, qui s'appelaient Jacques Revaux et Régis Tallard, qui ont fondé Tréma et qui me gardaient toujours au chaud. C'est-à-dire que je venais en France, je chantais, quand j'étais au Mexique, je chantais ce que je voulais, on obtenait un succès, un demi-succès, ou des fois pas de succès du tout, ça ne les empêchait pas de m'offrir les plus beaux orchestres du monde, et de me considérer comme un de leurs véritables artistes. Donc, apparent. Mis à part ça, j'ai enregistré Rêverie avec cette fameuse équipe de Toulouse, vous savez, où viendront tous ces chanteurs de Toulouse, dans cette fameux studio, je ne sais plus comment ça s'appelle, Condorcet peut-être, c'est ça?
Condorcet, oui.
Voilà le nom de Toulouse, avec toute cette équipe, et nous avons obtenu, on va dire, un honorable succès. Seulement, bon, il y avait quand même beaucoup de gens de ce métier, vous savez, on fait un métier dangereux, cruel parfois, et parfois injuste, parfois trop juste. Bon, c'était comme ça, il y en a qui voulaient, d'autres qui ne voulaient pas, donc on n'a pas réussi vraiment à en faire un énorme succès, mais des gens de ce métier m'ont tendu la main, comme Jacques Martin, Guy Lux, mais les Carpentiers, ils n'en voulaient pas. Bon. Donc, c'était difficile de faire un grand succès sans passer par les grands rouages de l'émission. Donc, que vous dire d'autre?
Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour vous à cette époque-là, ouais. Quelqu'un qu'on connaît grâce à une chanson.
Ah, bah.
André Bézu avec le leu dans la classe et qui a été ce qu'on appelle un attaché de presse.
Mais on l'appelait Nougaro et moi l'avions engagé pour, on l'avait payé pour être notre détaché de presse. Cet homme est un homme, un personnage. Il avait été aussi l'attaché de presse de Monsieur de Funès, de Jacqueline Maillan, de La Cage aux Folles, d'Oscar et tout ça. Et c'est un vrai personnage. Mais il s'occupait beaucoup de théâtre, des charlots aussi, de choses comme ça. Mais il m'aimait bien, donc il s'est occupé de moi. Il a essayé de m'implanter à nouveau dans ce métier. Ce n'était pas véritablement évident. Et il est resté mon ami et je pense tous les jours à lui. C'était un être exquis. Un ivrogne, mais un exquis.
Ouais. C'était une époque de folie. Et cette époque de folie, dans ce livre du Lierre dans les arbres, vous la racontez en évoquant le temps du paradis latin, où on oublie que Brachetti a commencé, parce que Rivière l'a trouvé, et de l'Alcazar, où tous les soirs, et vous y étiez, et je vous ai croisé plusieurs fois, jeune journaliste, c'était la fête totale avec des gens insensés qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, Hervé Villard.
C'était Paris. C'était le renouveau. C'est le renouveau d'après-guerre de Paris. Il n'y a pas eu mieux après-guerre comme lieu où tout devenait festif. Cette grosse manouche qui était magnifique, cette sapriche qui était une femme que Guillaume Adelotto avait jetée dehors et redevient, jette à la face du monde, j'allais dire, son audace. Cette actrice magnifique. Il y a eu des gens comme ça et d'autres. Et là, c'était le rendez-vous des artistes. On allait aux répétitions. On y restait jusqu'à 4 heures du matin, n'est-ce pas? Vous y étiez croisé, petit lutin. Mais vous voyez, Jean-Marie Rivière avait réussi, si vous voulez, à relancer, grâce à Paul Passini, il faut le reconnaître.
Qui est le fondateur des Whisky à Gogo, première discothèque française.
L'homme qui m'a lancé, qui après s'est fait sur la Côte d'Azur. Je veux dire, Paul Passini avait donc fondé l'Alcazar et avait donné carte blanche à ce fou chantant, on peut l'appeler aussi comme ça, bien qu'il ne chantait pas très bien, mais Jean-Marie Rivière, qui était un homme absolument Monsieur Loyal, qui était devenu Monsieur Loyal et qui engageait tous les travestis de Paris, les gens, mais il engageait des gens du talent. Et on y a vu, là, à l'Alcazar de Paris, débuter Dany, débuter
Daniel Guichard.
Et d'autres. Et nous, qu'est-ce que nous faisions avec le Luron quand il y avait un problème? Vous savez, on bouchait les trous. Il fallait boucher les trous quand il avait un problème d'escalier qui ne marchait pas ou une qui avait oublié son soutien-gorge. Enfin, je veux dire ça. Quand il fallait, donc Thierry et moi faisaient un numéro et moi je chantais l'Éternel Capri, c'est fini.
Voilà.
Ça, l'Alcazar, avec tous ces chefs de rang, tous ces garçons là-haut au bar, tout ça. Non, on a vraiment beaucoup, on s'est beaucoup amusé et on avait l'impression vraiment que Paris existait, on allait dire, presque grâce à nous.
Voilà. Et il y avait un personnage qui s'appelait Frédéric Rey, qui était un vieux danseur, qui avait été ramené dans une panière de Vienne à 17 ans par Mistinguette, caché parce qu'il voulait fuir son pays, et qui a dansé 40 ans Folie Bergère et qui a fini à l'Alcazar et qui était debout tous les soirs. C'est un personnage hors norme, ça aussi.
Mais j'en parle dans le livre. Oui. Chaliette, cocotte. Et ça va peut-être vous choquer. Quand il était bourré, il disait « Ma mère couchait avec Hitler, très bel homme, Chaliette. » Il parlait comme ça. Il était extraordinaire. Et il avait descendu, n'est-ce pas, comment elle s'appelait, Joséphine Baker, Mistinguette, et l'autre qui disait « L'ai-je bien descendu ?» Je ne sais plus comment
ça s'appelle.
Voilà. Et il disait « Cette femme sentait très mauvais quand je l'avais en bas dans l'escalier. » Il avait cet accent autrichien qu'il avait gardé. Mais il était absolument plein d'esprit et surtout, il avait mené la revue de Paris dans les années 30 et 20, n'est-ce pas?
Voilà, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Et il y a quelqu'un aussi à qui vous devez beaucoup, c'est Maurice Chevalier, je crois qu'il était votre parrain.
Mon parrain avec Dalida, ma marraine.
Voilà.
Ça,
Maurice Chevalier, c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire.
Je l'ai connu à Rio. J'ai l'air d'une antiquité comme ça, tout ce que je vous raconte. Mais je l'ai connu à Rio, c'était un homme. Je l'ai connu, il avait 80 ans déjà, et il descendait de l'avion. Il était un peu ensomnelé, il est rentré à l'hôtel, il prenait une douche, faisait une petite sieste, il redescendait, faisait sa conférence de presse, et le soir, il chantait pendant 2 heures dans le théâtre de la ville. J'avais vu chanter à San Paolo dans des théâtres absolument magnifiques. Moi, j'allais le chercher parce que j'étais le petit Français, vous comprenez, qui se devait d'aller chercher son aîné. Et Maurice, c'est C'est l'histoire, il fait partie de l'histoire de France, Maurice.
Oui, et on en parle peu aujourd'hui, curieusement.
Oh, on peut parler de tout le monde quand ils vous disent que Bécaud, on n'entend pas, c'est faux. On entend Bécaud. Vous savez, tant qu'il y a du linge aux fenêtres, il y a des chansons, et tant que nous sommes là, la mémoire de ces gens-là subsiste, reste.
Eh bien, restons ensemble avec une autre date dans quelques instants, le 13 mai 1999. À tout
Ah
de suite
oui.
sur Sud Radio avec Hervé Villard.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle d'Hervé Villard, mon invité, du Lierre dans les arbres, chez Fayard, votre livre de mémoire, troisième tome de vos mémoires. Et vous évoquez un personnage qui est lié au 13 mai 1999. Ce jour-là, il y a une cérémonie pour le centenaire de l'abbé Engrand. Et
ah,
vous êtes présent.
Alors là, vous savez, ça, c'était un homme... J'allais dire, c'était un saint homme. C'était un homme, c'était un grand théologien. C'est le premier, mon premier sauveur, c'est lui. C'est lui qui m'a sorti de la cruauté des familles dans lesquelles nous étions, plantés, nous, les orphelins d'après-guerre. Je ne vous dis pas que toutes ces familles ont été très cruelles avec nous, mais certaines. Moi, j'ai fait 7 familles. Donc, l'abbé Engrand m'a permis surtout de lire Stendhal, Bernanos, et d'être son enfant de cœur, ce que je lui suis reconnaissant, parce que, c'est, vous savez, on a, et moi, si vous voulez, les enfants, que vous dire, la littérature me nourrissait. Sorel, Julien Sorel était mon ami, imaginaire, mais mon ami. Et puis il devenait, Poil de Carotte était mon pote. Et c'est grâce à lui qu'il m'a enseigné tout ça. Que vous dire d'autre? Ben, les mariages, les enterrements étaient pour moi une sortie de secours parce qu'on avait un... D'ailleurs, il y a une histoire de Don Camillo, c'est la même histoire. Le curé était naturellement pas communiste et l'instituteur était largement plus que communiste. Alors, il s'entendait pas du tout. Et donc, moi, comme je m'entendais, j'avais choisi plutôt le côté de l'abbé Engrand. L'abbé, les curés, les mariages, les enterrements, les grandes cérémonies, les chemins de croix, les vêpres, et tout ça, c'était un prétexte pour pas être en compagnie de cet instituteur qui était, ma foi, véritablement une saloperie.
Alors, ça se passe à la Sellette, dans le Berry.
Oui.
Et effectivement, ce jour du centenaire, vous le célébrez. Et vous racontez ce jour-là que, effectivement, vous lisiez sur la margelle du puits, Maupassant. Maupassant,
oui.
qui a écrit plus de 1000 nouvelles et romans. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui l'auteur le plus adapté au cinéma et à la télévision.
Il le mérite.
Il y avait aussi, bien sûr, le Grand Maulne, puisque vous êtes au pays du Grand Maulne.
Oui.
Le Grand Maulne qui s'appelle Alain Fournier, parce qu'on ne sait pas exactement, parce qu'il s'appelait en réalité Henri Fournier, mais il y avait un coureur automobile qui s'appelait Henri Fournier.
Oui.
Donc, il a choisi le pseudonyme d'Alain Fournier pour ne pas lui ressembler. Et,
oui.
là, vous êtes dans son presbytère, et un jour, vous décidez, quand l'abbé Engrand a disparu, de racheter ce presbytère.
Oui, oui. Je vais vous dire, je venais de vendre, bon, on est rentré d'Amérique latine, et pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, on a vendu énormément de disques, j'ai fait énormément de kilomètres, on était un petit peu fatigués, on avait un peu la mémoire, on était lassés, vous savez, au bout d'un moment, il faut, sauf peut-être si vous avez une épouse ou un mari ou un ami qui est là proche de vous. Mais quand la solitude vous pèse dans ce métier, il est temps d'un moment de rentrer au bercail. Et moi, je voyais bien que je commençais à sombrer, pas dans l'alcool, mais dans cette poudre blanche qui commençait à traîner, vous voyez, dans les rues de Paris. Vous laissez tenter. Moi, j'ai pas trouvé ça très bon, donc j'en ai pas abusé. Mais je sentais que le bord du précipice était là, et donc j'ai préféré. J'ai dit, bon, on va arrêter là, on va aller vivre ailleurs. Parce que voilà. Bon. Et pourtant, j'adore ma ville, hein. J'adore Paris, c'est bon. Mais et je pense qu'avoir bien fait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je suis allé par hasard voir sur la tombe, fleurir la tombe de l'abbé, qui n'aimait pas les fleurs d'ailleurs, et là, le presbytère était à vendre, donc je me suis battu pour le racheter. Je l'ai racheté, et ce presbytère, j'en ai fait un joyau, c'est-à-dire que pierre par pierre, je l'ai remonté, fait remonter, parce que ce n'est pas moi qui ai fait la maçonnerie, au sable fin, avec de la chaux. Tout a été décortiqué, repris, remis en place, tout a été refait comme un joyau, comme un enfant qui ferait un puzzle, vous voyez. Et j'ai même pillé certains, j'allais dire, certains, allez, au pied des cathédrales, des temples du monde, il y a aujourd'hui dans le presbytère des choses qui viennent de Byblos et de la cathédrale de Bourges et d'ailleurs, parce que je voulais et ça m'a beaucoup intéressé de reconstruire ma maison. Et je pense qu'en reconstruisant cette maison, je me suis reconstruit. Maintenant, cette maison, je ne l'ai plus. Elle est à une famille de, comme un destin, elle est à une famille de gens qui est très croyante, très catholique, qui a deux enfants qui sont prêtres. C'est très bien, c'était le destin. Voilà.
Alors, vous racontez dans ce livre du lierre dans les arbres l'achat de cette maison et le notaire, vous le reconnaissez pendant la vente car c'est un copain d'enfance.
Oui, ben bien sûr, le notaire. Vous savez, bon, j'ai retrouvé aussi le maire de Saint-Amand-Montrond, qui était j'allais dire un humble sénateur, mais qui, voilà, c'était, oui, le notaire Pinel, il était devenu il était un peu coincé, celui-là, oui, un peu.
Alors, il habitait, je crois, c'était Épineuil-le-Fleuriel.
Oui, et donc le village où a enseigné Alain Fournier.
Voilà.
L'école où a enseigné Alain Fournier, oui,
Et le
à
maire.
4 km du presbytère.
Voilà. Et il y avait un maire qui s'appelait Alexandre Dumas, mais qui n'a aucun rapport avec l'écrivain qui est
Oui,
devenu
oui,
député politique.
oui, oui.
Alors, il y
C'est
avait
comme
déjà.
mon voisin qui s'appelait à Paris, qui s'appelait Grasset, et je lui demande, vous êtes familier avec la famille de l'éditeur? Il me dit, non, je suis le fils du maraîcher d'en bas.
C'est normal de parler de ça quand on s'adresse à une grosse légume comme vous.
Oh, comme c'est sympa. Vous avez toujours votre humour et coquin. Hein, vous êtes un petit coquin, Pessy.
J'essaye. Alors, j'en reviens à cette maison, car tout le monde est étonné que Hervé Villard, star, le petit René,
Oui.
aille dans ce qu'on appelle un trou perdu, car il y a quelques maisons, et vous allez être heureux là-bas pendant des
Oui,
années.
non, mais ce que je veux dire, ce n'était pas que j'aille dans ce trou perdu, c'est qu'on se disait, il a tellement souffert dans ce coin, il a tellement été maltraité, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Vous voyez? Donc, il y avait, vous savez, le Berry est une terre très austère, où les gens ne s'expriment pas beaucoup, à part quelques barons, quelques marquises qui restent, j'allais dire, très érudits, des gens très cultivés. Le reste, les gens, ce qui compte là-bas, c'est leur terre. Et aujourd'hui, malheureusement, cette terre, elle se pollue, ces rivières se polluent, elles s'esquintent. Les gens, la nouvelle génération rêve plutôt de BMW que d'élever des bovins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le monde a basculé là-bas, mais c'est comme ça. Mais le Berry n'est plus celui qu'a décrit George Sand ou Alain Fournier. Moi, j'ai vécu véritablement la fin, totale fin. J'ai voulu reconstruire, allez, j'allais dire, assouvir quelques rêves, mais ça n'a pas, ça encore une fois, ça n'a pas abouti. Et puis au fond, ben, je suis un mec du voyage, je suis un saltimbanque, je suis fait pour me déplacer, je suis revenu à Paris, tout va très bien.
Alors, j'ai calculé, vous êtes passé 49 fois à la chance aux chansons, et en 95, vous avez fait votre retour avec cette chanson. Les anges du matin, finalement, c'est un gros succès aussi. Et ces matins, vous les avez vécus au presbytère, ce qui vous a changé des nuits parisiennes.
Oui, mais c'était beau, ces brumes qui se lèvent le matin avec vous. Vous vous levez avec les brumes. Et vous avez qui rase comme ça les ciels, les terres, et puis les ciels en flamboyant, même l'hiver. Vous savez, j'avais deux amis, je vous raconte ça parce qu'on peut décrire le presbytère. Pour moi, le Berry ressemble un petit peu à la Toscane, vous voyez. C'est un peu assez. Je parle du Berry vallonné, je ne parle pas vers Bourges, je parle plutôt en allant vers l'Allier, la forêt de Troncès. Enfin, les gens qui nous écoutent ne sont pas obligés de savoir où est la forêt de Troncès. C'est la forêt qu'a plantée Colbert. Voilà. Et donc, que vous dire, c'était une merveille. J'avais l'impression de me régénérer naturellement. Et je me suis régénéré parce que qu'est-ce que j'ai fait là-bas au presbytère? Je n'avais pas la télévision. J'ai lu, relu tout ce que j'avais déjà lu, plus tout ce que j'avais à lire. Mais vous savez, quand vous lisez, Houellebecq, dans votre lit et que vous regardez par la fenêtre, vous entendez le bruit des corbeaux, c'est assez intéressant. Et puis vous écoutez aussi la radio le soir, on écoutait comment s'appelle cette émission, Le Masque et la Plume. Alors vous entendez des gens qui parlent de gens illustres à leurs yeux ou à leurs oreilles et vous rendez compte que personne ne les connaît. C'est-à-dire qu'ils citent des noms d'acteurs que personne ne connaît. Et alors là, vous apercevez que finalement, vivre en province, au fond, dans le fond des fonds de la France ou de la Terre, c'est, eh bien, et on relativise les choses, on se dit, ils sont fous à Paris.
Alors, il y a aussi un truc de fou que vous avez fait, c'est que vous avez trouvé des manuscrits et que ça vous a permis d'être reçu par Jean-Paul II au Vatican.
Oui, mais ça c'était un des plus beaux grands moments de ma vie. J'ai rencontré des gens illustres dans ma vie, j'ai rencontré Marguerite Duras, qui est devenue ma copine, j'ai rencontré Borges, j'ai rencontré des gens illustres. Mais celui qui m'a vraiment frappé, c'est vraiment Jean-Paul II. Parce que déjà, je trouvais qu'il avait quelque chose de similaire avec l'abbé Engrand. Ils avaient les mêmes mains, ils avaient le même regard profondeur, ils avaient les mêmes pommettes comme ça. Donc, quand j'ai décortiqué le presbytère, au grenier, j'ai trouvé, j'allais dire, un demi-siècle de prêches enveloppées dans des cartons qui commençaient à être bouffés par les rats. Donc j'ai tout ressorti, j'ai tout dépoussiéré, j'ai tout replié dans des papiers. J'en ai lu pas mal, mais je n'ai pas tout lu. Et je les ai confiés à la cathédrale de Bourges, à l'archevêque, qui s'en est naturellement préoccupé. Donc je suis devenu furieux. Et je lui ai dit, mais vous faites quoi? On ne va pas laisser ça comme ça. Donc je les garde pour moi. Et donc il m'a dit, mais faites-en ce que vous voulez. Donc j'ai appelé Monseigneur Lustiger à Paris, qui m'a ouvert les portes du Vatican. Et je suis allé porter au Vatican lire quelques prêches. J'ai été reçu par Jean-Paul II et qui m'a dit « Est-ce que nous pouvons nous voir cet après-midi ?» J'ai donc vu en tête à tête sa sainteté Jean-Paul II, qui ne ressemblait plus du tout au pape. Il était en salopette avec un sécateur à la main en train de couper, de tailler des rosiers. Donc là, vous vous dites, mais quand même, est-ce que je suis vivant? Vous vous pincez pour voir si c'est vrai. Et cet homme qui m'a dit, une phrase est magnifique, il m'a dit, vous savez, votre capri, quand j'étais à Cracovie, je crois que c'était à Cracovie, quand j'étais, je ne sais plus si c'était évêque ou archevêque, je ne sais pas, j'étais à Cracovie, nous sentions votre capri comme un chant de liberté. Alors, à un moment, vous vous dites, mais est-ce que je vis vraiment là? Est-ce que je ne suis pas déjà là-haut? Et bon, ça, on est imprégné par ce genre de choses, ce genre de moment où on se sent vraiment terriblement privilégié. Puis après, ben, vous prenez Rome, vous vous promenez dans Rome, vous allez à Villa Medici, vous rentrez à l'hôtel, vous buvez un chocolat, vous allez dormir et vous n'arrivez pas à dormir.
Évidemment. Alors, cette anecdote figure dans ce livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 4 novembre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Hervé Villard.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hervé Villard. Il y a donc ce livre qui est sorti le 4 novembre 2020, Du lierre dans les arbres, qui est le troisième tome de vos souvenirs chez Fayard. Il y a eu déjà L'âme seule, Le bal des papillons. Il a quand même fallu très longtemps pour que ce troisième tome sorte, oui. Hervé Villard.
Oui, parce que je voulais être à la hauteur. Et comme j'avais eu de bonnes, allez, on va dire entre guillemets, critiques, et de bons résultats de la part des libraires de France qui m'avaient encouragé, qui m'avaient dit « Hervé, vraiment, c'est joliment écrit, on est content, c'est de la littérature et tout ». Alors, je me sentais flatté, on ne sent plus publicé. Vous savez, quand on a un petit chanteur de variété comme moi, quand on a les honneurs de tout ça, on se dit « bon, on sent… » Bon, alors, bon, bref, donc je voulais quand même que ce livre soit à la hauteur. Et c'est Claude Durand, qui est maintenant plus de ce monde, qui était directeur de Fayard, à qui j'avais promis. Mais ce que je voulais, c'était au moins qu'il soit mieux que les autres. Encore mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans L'âme seule? J'ai écrit un peu… Il parle un peu, je parle de moi à la troisième personne parce que c'est devenu quelqu'un d'autre pour moi, l'héros du livre. Il parle un peu comme un enfant, comme ça, il se promène dans cette enfance. Ensuite, il se promène dans cette gloire qui est une fausse gloire, au fond, parce que la gloire, dans le deuxième, dans le bal des papillons, il se promène dans la gloire comme ça, qui n'existe pas, au fond, parce que la gloire, elle est faite pour ceux qui vous regardent et non pas à celui qui la vit. Faut pas se faire d'illusions. La gloire, ça n'existe pas pour nous. Il faut surtout pas y croire. Et le troisième, donc, il était quoi? La résultante, bon, je pouvais larmoyer en racontant que je l'avais pas, que j'aurais bien voulu fonder une famille, que je n'avais pas réussi, que j'avais ceci, que j'avais fait des disques d'or et ceci et cela. Vous savez, on est toujours branché sur soi dans ce métier. C'est moi, moi, moi. On se lève le matin en pensant à soi. On vit pour soi. On fait un véritable métier d'égoïste. Et si on ne le fait pas, votre métier passe. Et quelqu'un est là pour prendre votre place. Donc, il n'en est pas question. Vous en doutez bien. Je fais un très beau métier. Donc, c'était pas. Mais par contre, ce que je voulais, c'est d'abord être à la hauteur des deux premiers. Et je pense très sincèrement que nous avons réussi. Enfin, ces livres sont ma fierté. Voilà.
Voilà. Alors, dans ce livre, il y a plein d'anecdotes, certaines qu'on a déjà racontées, et surtout, il y a à Paris un mélange de vos rencontres, de personnalités et de truands, car vous avez
Ah.
fréquenté beaucoup de truands.
Je suis né avec les truands.
Oui.
Mais il y en a plein de métiers déjà de la chanson. Il y en
Oui,
a
mais
plein dans votre métier des truands, cher
on est
Jacques. J'en
d'accord, mais là,
connaissais quelques-uns.
oui, mais
Oh,
là, ceux-là vont plus en prison que les autres.
oui, mais vous voyez, non, mais ils n'y arrivent pas à y aller en plus. C'est parce qu'ils ont des relations. Hein. Bon, non, je parle, oui, évidemment, de. Non, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que parmi les privilèges que nous offre ce métier, évidemment, ça bascule. On passe d'un jour à cette famille de mineurs dans le Nord. Évidemment, si vous n'êtes pas curieux et que vous regardez le nombril, vous pouvez très bien ne pas savoir qui ils sont. Moi, j'ai fait ce métier par curiosité. J'ai fait ce métier aussi pour connaître le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse que comme ça. Ce métier, en dehors du plaisir de chanter, de donner du bonheur au public, il y a aussi cette curiosité. Moi, j'allais chanter à Rio. Quand je chantais à Rio, je chantais 15 jours à Rio, je restais 3 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois 4 mois. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est ça. C'est le fait donc, quand vous avez un milieu de truands, comment il s'appelait celui-là, l'ami de Long, là, je ne sais plus comment il s'appelait, bon, il était là, il aimait. Vous savez, les truands aimaient beaucoup les chanteurs. Je ne sais pas s'ils les aiment encore. D'ailleurs, je me demande si les véritables truands existent encore. Parce que ce qu'on appelait des truands, c'était, vous voyez, ces personnages d'Audiard, c'est André Pousse. Vous voyez, il y avait des gens comme ça qui étaient. Hein, ça, c'était des gens. Mais ils étaient assez brillants. Et bon. Alors, j'ai eu affaire à ces gens-là, et puis j'ai eu affaire à des divas, à des bonnes femmes qui étaient richissimes, qui remplissaient leur salle, j'allais dire, à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'elles payaient pour que le public vienne, mais le public payait leur place. Bon, et puis j'ai connu des divas comme Tchérina, comme Maria Félix. C'est vrai que c'était vraiment des divas.
Alors, Lula Tcherina, justement,
Ouais.
c'était une ancienne danseuse qui donnait des réceptions chez elle
Oui.
près du pont de l'Alma. Et
Oui.
moi, je me souviens d'elle, parce que chaque fois qu'on allait chez elle, il y avait une lettre du général de Gaulle sur la table.
Oui, pour te voir qu'elle avait bien connu.
Voilà.
Toujours taille fine, taille de guêpe, et vous avez vu le turban rose au milieu des cheveux pour bien cacher les pointes de son lifting là-haut, et rien ne bougeait, sauf si elle pétait, ça risquait de craquer. Mais
Voilà, c'est une
extraordinaire
lettre
cette
de
femme.
Gaulle.
Mais cette femme qui avait été quand même une étoile, voyez, je veux dire, c'est quand même. C'était une Russe, elle était magnifique, mais c'était une grande, grande danseuse, s'évertuait à chaque fois. Hein. Et alors, comme elle était devenue ma copine, j'habitais moi, avenue Pierre Premier de Servi, elle frappait à ma porte, moi qui me couchais à 5 h ou 6 h du matin, quand ce n'était pas 10, elle frappait à ma porte le matin pour me raconter ce qu'elle avait vu à la télévision la veille. Vous savez ce que je veux dire? Non, c'est captivant. Des gens magnifiques. même.
Maria Félix, qu'on a oublié aujourd'hui, a
Ouais.
été une grande
Mais
actrice.
pourquoi on l'a oublié? Pourquoi dites-vous ça?
Parce que
On
quand
peut
vous parlez aux
pas.
jeunes de Maria Félix, ils ne savent pas qui c'est.
Oui, non, mais enfin, on va pas passer. Pourquoi voulez-vous que BFM TV vous fasse un compte rendu sur la vie de Maria Félix? Ça n'est pas.
On est d'accord.
Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui les intéresse, c'est que M. Sarkozy, s'il va aller en prison ou pas, et le reste, c'est. Et puis, si savoir si les pharmacies vont rouvrir ou pas.
Voilà.
Oui, enfin, les librairies. Le reste, l'actualité aujourd'hui, elle nous bouffe et elle bouffe le monde. Mais évidemment que le passé ne les intéresse plus.
Mais
Voilà.
Maria Félix a été une grande actrice, au Mexique, notamment.
C'était la grande actrice du Mexique. C'était la fierté du Mexique. C'est la femme qui a osé braver l'Amérique. Vous savez que les Mexicains n'aiment pas les gringos. Hein, c'est comme nous, un peu les Anglais. Oui, on les supporte, mais enfin, en dessous, on les supporte difficilement. Hein. Bon, on vous fait le grand coup de la reine d'Angleterre, mais enfin, la reine d'Angleterre, elle commence à nous fatiguer. On n'en a rien à foutre. On a coupé la tête à Marie-Antoinette, écoutez, quand même. Et maintenant, on nous parle de la reine d'Angleterre. C'est quand même assez fatigant. Mais il y a des contradictions. Non, pour en revenir à cette femme qui était. Non, c'était une vraie diva. Elle a joué dans Renoir. Donc, Cancan, c'est magnifique, avec Françoise Arnoul, ce film est magnifique, un chef-d'œuvre. On voit, eh ben, elle est exactement ça, ce qu'elle est dans le film. C'est une femme qui ose tout, qui parle avec sa vérité, et parce qu'elle est divine et belle, pardon, elle est capable de porter quelques kilos d'émeraude derrière son cou, vous voyez,
Voilà.
à son
Alors, elle
cou.
vous a dit un jour, Maria Félix, Hervé Villard, que les Mexicains croient aux forces de la mort pour donner de la légèreté à la tragédie.
Vous voulez me répéter ça?
Vous dites dans votre livre, les Mexicains croient aux forces de la mort pour donner de la légèreté à la tragédie.
Oui, c'est ça. C'était des phrases qu'elle disait, oui.
C'est
Mais oui,
extraordinaire.
et qu'en pensez-vous?
Ben, il se passe que il y a quelque temps, Didier Van Cauwelaert a fait un livre
Ah
en
oui.
parlant justement au Mexique de la transmission, de la transcommunication instrumentale qui consiste à se réunir pour parler aux morts en chantant et en se tenant la main. C'est un peu le même principe.
Mais vous savez que la fête des morts a lieu tous les ans au Mexique, où les femmes vont sur les tombes et insultent leurs anciens maris qui sont morts. Elles font espèce de saloperie, espèce d'ivrogne. Tu m'as laissé avec 5 enfants. Faut que maintenant je me batte toute seule. Elles sont sur les tombes et elles fêtent les morts de cette façon. C'est-à-dire qu'elles fêtent leurs défunts. Par contre, on les appelle les lloronas, c'est-à-dire les pleureuses.
Alors, il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées, et un jour au Fouquet's, vous êtes avec Tino Rossi et
Ah
arrive un musicien extraordinaire à qui vous devez cette chanson.
oui. Nous, c'est une illusion qui naît d'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien
Nous, c'est Toto Cutugno
oui.
et. Et donc vous l'avez rencontré. D'ailleurs, je crois qu'il a
Oui.
cru que Tino Rossi était votre papa.
Oui, c'est ça, c'est oui. J'étais avec Bézu, j'étais avec mon ami Bézu, qui avait de l'audace. Il était l'ami intime surtout de la femme de Tino. Et Tino me montrait, me descendait à Neuilly chez lui, me montrait toutes ces toiles de maître qu'il avait, des utrillos, beaucoup de choses. Bon. Et on était devenus copains, et quand j'habitais pas très loin, on allait au bar du Fouquet's et je discutais avec Tino, qui me racontait sa carrière et tout ça. Ah, le grand Tino, c'était une merveille, c'était un être superbe. Et donc là, un jour, Bézu voit Toto Cutugno, il fait « Oh, Toto !» Et donc l'autre me voit, il me dit « Oh, mais Hervé Villard, vous êtes Hervé Villard, vous chantez pas mes chansons. Et moi, j'écris Joe Dassin et tout ça, et
Il était
l'été
indien.
indien et machin et truc. » Je lui dis « Mais donnez-moi votre carte, je serai volontiers. » Et donc, un jour, je suis allé à Rome, non, à Milan. Cet homme vivait à presque 40 ans encore chez sa mère, avait sa maîtresse ou deux maîtresses, une à l'autre bout de la ville et une en face de chez lui, et jouait du piano-bar en bas de chez lui. Il ne quittait pas sa maison, il ne quittait surtout pas sa mère. C'était le bel italien, n'est-ce pas? Et donc là, nous avons, au piano, nous sommes passés, moi je suis resté, oui, 1 mois et demi, au moins 1 000 ans avec lui. J'adore l'Italie, moi, vous savez, je suis un fou de ce pays. Et donc, là, il a créé Venise pour l'éternité, il a écrit Méditerranéenne, il a écrit on revient, je l'aime tant, et naturellement nous et quelques autres qui sont moins connus, mais il a écrit tout ça en un mois et demi. Il les a chantés en italien, en allemand, et moi je les ai chantés en français et en espagnol. Nous avons créé à peu près en même période ces chansons-là, et pour vous dire tout, nous étaient inspirés d'une chanson de David Bowie que j'écoutais beaucoup dans une cassette qui s'appelle Mars et Vénus ou Vénus et Mars, je ne sais plus comment s'appelle le titre, mais c'est assez similaire. Et on s'est rendu compte que c'était de toute façon, ça venait de Beethoven. Alors vous voyez, c'était pas, on n'a rien inventé.
Dans ce livre, vous évoquez aussi quelqu'un qui vous manque et qui nous manque, c'est Dalida.
Oui, oui, oui. Ça, c'est un, j'allais dire, c'est un peu de ma chair qu'on m'a enlevé ça. Pourquoi? Parce que elle fait partie de ma vie. D'abord, c'était très secret. Elle avait été. Vous savez, je vais vous la répéter, je l'ai déjà dit, mais quand j'étais en orphelinat, j'avais écrit un soir à Dalida et un soir de Noël, la carte est arrivée. Bon, donc j'ai reçu cette carte. Et quand j'ai fait mon premier disque, je suis allé la voir chanter à Bobino, j'étais disquaire à l'époque, sur les Champs-Élysées. Elle a passé mon disque le lendemain chez Maurice Biraud sur Europe 1. Là, vous recevez quand même un coup en plein cœur, parce que vous entendre déjà chanter votre chanson dans la radio, ça fait un drôle d'effet. Donc, à partir de ce moment-là, Dalida, qui chantait la Sainte Totoche à Bobino, elle est entrée dans ma vie.
Merci Hervé Villard, et puis continuez comme ça, ne changez rien.
Le monde est à refaire, cher ami.
Le Quai d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.